Yes. Seigneur, je te prie pour ce temps, Seigneur, alors que nous entrons dans ta présence, nous sommes dans ta présence, nous savons que tu nous devançais, tu étais là avant nous, tu étais là, Seigneur, dès le commencement du monde, mais tu étais là, Seigneur, ce matin, tu nous devançais. Tu préparais le terrain, tu préparais nos cœurs, Seigneur, sur notre chemin, Seigneur. Nous te demandons que tu puisses parler à travers ta parole, à travers ce message particulier ce matin qui ouvre cette série estivale, Seigneur, où nous ouvrons des passages de ta parole que nous n'avons pas l'habitude peut-être d'aborder. Seigneur, je prie que tu puisses parler à chacun, je prie que tu puisses toucher nos cœurs, je prie, Seigneur, que tu puisses mettre un dépôt, Seigneur, dans nos vies. Permets-moi de partager ce message de la meilleure manière, mais surtout permets-nous, Seigneur, de repartir avec quelque chose qui sera une source de bénédiction, Seigneur, à la fois pour ton peuple, mais pour ceux qui nous entourent. Et c'est dans le nom de Jésus que je prie ce matin. Amen. Tout le monde peut dire Amen. Je vais prendre ma petite table. Parce que je me connais, je vais donner des coups de pied dedans. Et voilà. Yes, on débute une nouvelle série ce matin, une série d'été, comme je l'ai dit, qui va nous accompagner pendant toute la période estivale. Et on va regarder plusieurs sujets dont la Bible parle, mais qu'on n'a pas l'habitude d'aborder habituellement, et qui sont pourtant très pertinents, vraiment, vraiment, vraiment. Et le but, je veux juste dresser la table ce matin, le but, ce n'est pas d'entrer dans des controverses ou de créer la controverse. Je ne suis pas tellement quelqu'un qui suscite les controverses, je n'aime pas ça. Il faut dire les choses comme elles sont, il faut dire la vérité dans l'amour, mais les controverses, ce n'est pas trop mon style. Le but, c'est d'enseigner les chrétiens sur plusieurs sujets que moi, j'appelle des angles morts de la vie chrétienne. Des choses que on les regarde pas, ça semble insignifiant, mais pourtant ça fait une grande différence au regard de l'éternité. Et ce matin, et vous allez voir aussi au fil du temps, j'ai une misère incroyable. L'équipe technique me demande des fois, c'est quoi le titre de ton message? Je sais pas mettre de titre à mes messages, mais ce matin j'en ai un. Le titre du message de ce matin, c'est « La Bible parle des enjeux climatiques ». Aïe aïe, vas-tu parler d'enjeux climatiques à l'église un dimanche matin? On va parler d'un sujet d'actualité ce matin qui intéresse peut-être pas tout le monde dans la vie de tous les jours, mais qui nous concerne tous. Oui, on va parler de ce sujet-là. Ouais. On ferait pas mieux de parler d'évangélisation, on ferait pas mieux peut-être de parler de la fin des temps. Ça, c'est un sujet spirituel. On devrait peut-être aborder ça plutôt. On va parler de ça. On va parler de ce sujet-là ce matin. L'écologie, si on ouvre le dictionnaire, l'écologie, c'est l'étude des milieux où vivent les êtres vivants ainsi que des rapports, l'étude des rapports de ces êtres avec le milieu dans lequel ils habitent. Il faut qu'on en parle ce matin, parce que s'il y a un sujet sur lequel on a en tant que chrétien, là, on a des dizaines de longueurs de retard par rapport à ce qui se fait dans la société, bien c'est bien la question de l'environnement, puis ça ne date pas d'aujourd'hui. Les chrétiens évangéliques, on a comme une espèce de réticence à parler de ce genre de sujet. On aborde très, très, très peu la question, ou si on le fait, on le fait d'une manière un petit peu détachée, on est blasé, ou de manière fataliste. Au tout début de ma vie chrétienne, j'avais 18 ans, là. Faites-moi grâce, s'il vous plaît, j'étais niaiseux à l'os, comme pas possible. Puis j'étudiais en horticulture de ce temps-là, puis j'ai étudié 3 ans en horticulture, en botanique, j'ai fait des cours, on avait des cours de toutes sortes, botanique, écologie, tout ça, puis à un moment donné, on a un cours intensif avec un écologiste. Et ce petit bonhomme-là, super bien intentionné, c'est le genre de bonhomme qui, moi j'aime la nature, j'aime le bois et tout, mais c'est le genre, il entre dans le bois, il voit un petit peu de... Tu sais, la petite mousse d'arbre là que tu trouves sur les arbres plan nord, tout ça, lui, il l'envoie à terre, il faut qu'il enlève ses chaussures puis qu'il marche à pieds nus dedans, là, puis que ça fasse squitch, squitch, squitch sous ses orteils. Là. C'est ce genre-là. Et moi, ben, je suis un nouveau chrétien, puis voilà, il y a un arrière-plan un petit peu conservateur, puis je ne suis pas du tout assidu sur cette affaire-là d'écologie. Puis lui, il nous parle de comment les milieux sont fragiles et tout ça. Je l'ai presque fait pleurer à la fin de la semaine. J'étais un cauchemar pour ce bonhomme-là et je me suis repenti. Je me suis repenti depuis ça, là. Mais c'est vrai qu'avec les années, on commence à prendre de la maturité puis on découvre que okay, c'est vrai, il a raison, toutes ces affaires-là. Mais souvent, j'ai l'impression qu'on est détaché. On est un peu détaché. Un petit peu comme si on se disait que ce n'était pas à nous de nous préoccuper de ces affaires-là. Nous, notre mandat, il est spirituel. Nous, on parle des vraies affaires. Nous, notre mandat, il est spirituel. Ou encore un petit peu fataliste, parce qu'on lit Matthieu 24, au verset 35, puis Jésus l'a dit lui-même, hein, « Le ciel et la terre disparaîtront ». Fait qu'on a un petit peu cette idée-là, qu'on sait que de toute manière, c'est pas souvent conscient, c'est un petit peu en arrière-plan, que de toute manière, tout disparaît, et puis on aborde un petit comportement, j'ai envie de dire, blasé, ou certains, dépendamment comment tu te positionnes, un peu profiteurs de la situation. Tu sais, de toute façon, tout passe, puis je sais où c'est qu'on s'en va. Fait qu'on va en profiter jusqu'à la fin. Mais le problème avec notre détachement, là, c'est que ça a tendance à ternir notre témoignage dans la société en tant qu'Église. Ça a cette tendance-là, parce que ça fait des années que les enjeux climatiques intéressent la majorité du monde. On en entend parler partout, tout le temps, dans tous les médias qui existent possibles. Et nous, on n'en parle pas du tout. On n'en parle pas du tout, quasiment pas du tout. Ça inquiète des personnes autour de nous de toutes les sortes. Ça inquiète des personnes et nous, on démontre aucun intérêt sur le sujet. La question du climat, les catastrophes naturelles, de l'utilisation des ressources naturelles, toutes ces choses-là sont des sujets majeurs, plus que jamais auparavant, mais nous, on ne l'aborde pas. Vous savez, on a tous remarqué dans les dernières semaines qu'il y avait, des fois, il y avait un petit peu de boucan dehors. J'étais allé à Montréal vendredi, pas la semaine passée, la semaine d'avant. C'était dans la brume totale. Tu regardais à peine 100 mètres en avant de toi, et puis on était dans la boucane. La ville était dans la boucane. Ça faisait déjà des jours que c'était ça. Puis c'est des millions d'hectares qui sont en train de partir à tous les jours, qui partent littéralement en fumée. Vous allez me dire, oui, mais il reste une couple de millions d'hectares autour des parties enflammées. C'est certain. Mais c'est quand même de la boucane partout. Il y a une photo qui apparaît en arrière. Pour ceux qui n'ont pas suivi l'actualité, quand je te parle de boucane, c'est pas le concert du Festival de Québec, hein, la boucane, c'est autre chose. Alors qu'on voit des cataclysmes se multiplier puis devenir de plus en plus violents, des événements dramatiques qui génèrent une anxiété. Il y a une anxiété qui est là, qui est présente parmi la population, de plus en plus importante. L'Église ne peut pas rester silencieuse sur des sujets qui touchent tout le monde de cette manière-là. Moi, je peux pas. C'est impossible. Fait qu'on aborde ce sujet-là ce matin. La Bible en parle, nous aussi. Donc pendant quelques instants, j'aimerais qu'on puisse faire l'effort de réfléchir sur la question de l'écologie, du climat, pour développer une théologie de la création qui soit saine, mais surtout biblique. Une théologie, quand je dis théologie, je parlais d'une compréhension biblique, une compréhension chrétienne, fondée sur la parole de ce qu'est la création, de l'ordre que Dieu a établi. Et pour y arriver, il faut commencer par comprendre qu'il n'est pas possible, bibliquement, c'est impossible de séparer les êtres vivants de la création et la terre elle-même. C'est impossible. C'est impossible de séparer les habitants de leur lieu d'habitat. La terre, ce n'est pas juste un immense véhicule qui flotte dans l'espace sur lequel Dieu nous a posé en attendant que Jésus revienne pour recréer la terre qui a été détruite. Ce n'est pas ça. La Bible nous dit que dans la Genèse, Dieu a tout créé. Il a créé le ciel, il a créé la terre, il a créé les mers, il a créé les animaux, il a créé l'homme, la femme à son image. Et une fois que tout ça, ça a été fait, il a constaté que tout ça a été très bon. C'est ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit que Dieu aime sa création, pas juste une partie, sa globalité. Pas juste nous, mais aussi la place dans laquelle il nous a posés. Pas juste les forêts, mais aussi les villes dans lesquelles nous sommes. Dieu aime sa création et dans sa globalité. De quel petit quiz ce matin, rapido, là? De quelle matière Adam a-t-il été tiré? Quiz biblique. La poussière. Littéralement, le terme employé dans la Genèse, dans l'hébreu, c'est le mot Adama, littéralement qui veut dire terre. De la terre, nous avons été tirés. Le prénom Adam signifie littéralement tiré de la terre. Et si on lit encore la Genèse, on remarque qu'il y a des conséquences immédiates, pas seulement des conséquences immédiates de la chute dans le péché, mais pas seulement sur l'humanité, pas seulement dans notre relation avec Dieu, il y a une séparation qui a pris place à ce moment-là, mais aussi sur la terre et tout ce qu'elle produit. Si on va dans la Bible, dans la Genèse, au chapitre 3, versets 17 à 19, ça apparaît à votre écran. Il a dit à l'homme, c'est Dieu qui parle, « Puisque tu as écouté ta femme après la chute, on est à ce moment-là, et mangé du fruit sur lequel, duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras pas, le sol maintenant est maudit à cause de toi. » On parle de la terre ici en parlant du sol. « C'est avec peine que tu tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des ronces et des chardons et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, et ce jusqu'à ce que tu retournes à la terre, puisque c'est d'elle que tu as été tiré. Oui, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. » On a tendance à oublier cette réalité-là. J'ai été tiré de la poussière. Je suis formé de la terre par le souffle de Dieu, par le souffle de vie qui a été mis en moi. Mais je suis de la poussière. C'est pas possible de dissocier les deux. Ce que Dieu a créé dans sa bonté, puis son infinie sagesse, il l'a fait pour être interdépendant, pour fonctionner ensemble. Il l'a fait pour que ça fonctionne en harmonie. Et la chute est venue entraver ça. La chute est venue entraver à la fois notre relation avec Dieu, mais le péché a eu des conséquences sur la création tout entière. Vous me suivez jusque-là? Ça va? C'est quand même intéressant de parler d'écologie le dimanche matin, finalement. On va lire quelques passages dans l'Ancien Testament. Dans Osée, au chapitre 4, versets 1 à 4, il est dit « Écoutez la parole de l'Éternel, Israélite, car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays. Il n'y a que parjure et mensonge, assassinat, vol et adultère. On recourt à la violence, on commet meurtre sur meurtre. C'est pourquoi le pays, ici quand il est mention du pays, on parle de la terre, l'endroit, le territoire, sera dans le deuil. Tous ceux qui l'habitent seront abattus. De même que les bêtes sauvages et les oiseaux du ciel, même les poissons de la mer disparaîtront. Mais que personne ne conteste, que personne ne se livre aux reproches. En effet, ton peuple est pareil à ceux qui se querellent avec les prêtres. » Il y a une conséquence sur l'environnement. Il y a une conséquence à l'action des hommes, vous notez ça dans Osée, sur l'environnement qui les entoure. Les bêtes vivent des conséquences, la population vit des conséquences, le territoire subit des conséquences. Lévitique 18, versets 25 à 28, « Le pays est devenu impur et j'interviendrai contre lui à cause de son péché. Il vomira ses habitants. Vous respecterez mes prescriptions et mes règles et vous ne commettrez aucun de ces actes abominables, ni l'Israélite, ni l'étranger en séjour parmi vous. » En effet, toutes ces pratiques abominables, en parlant des pratiques des populations qui ne connaissaient pas Dieu, les hommes qui ont habité le pays avant vous les ont commises. Et le pays est devenu impur. Littéralement, la terre est devenue impure. Que le pays, littéralement la terre, le sol, le territoire, que le pays n'ait pas à vous vomir parce que vous l'aurez rendu impur, comme il a vomi les nations qui l'habitaient avant vous. Vous savez, du temps de l'Ancien Testament, on n'avait pas accès à la science et à toute la connaissance qui est reliée à la science qu'on a aujourd'hui. Mais on avait une compréhension beaucoup plus claire, très très claire, de la réalité d'une interdépendance au sein de la création. Je ne veux pas vous apporter quelque chose de nouveau ce matin, c'est ce que la Bible enseigne, c'est ce que la Bible dit. L'idée que la terre est comme une grosse machine qu'on utilise, puis que l'homme un petit peu a rien à voir là-dedans et que ça intéresse même pas Dieu quelque part. Tout ça, c'est une idée qui a davantage été instituée durant la période des Lumières par les philosophes qui aimaient ça discuter. Puis on aimait dans cette période-là dissocier le spirituel du physique, l'être humain, la spiritualité, excusez-moi, la nature. On dissociait tout, on faisait des silos. Alors que dans la pensée biblique, l'idée que notre comportement a aucune influence sur l'environnement, c'est tout simplement pas existant. C'est pas biblique. Avoir une compréhension biblique et saine sur la question de l'environnement, c'est comprendre qu'on ne peut pas dissocier l'humanité et son habitat, mais c'est aussi comprendre qu'on a un rôle à jouer. Nous avons un rôle à jouer sur la question de l'environnement, parce que Dieu ne laisse pas la gestion de la terre entre les mains du hasard, à aucun moment. On va aller dans Genèse 1, au verset 26 à 28. Lors de la création, Dieu a dit « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. » Et tout de suite après, il a dit « qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image. Il créa l'homme à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et dit « Reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre, soumettez-la. » Et dominez ensemble sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se déplace sur la terre. Dans Genèse 2, au verset 8, il est écrit « L'Éternel planta un jardin en Éden, du côté de l'Est, et il y mit, littéralement le mot « cime », il y plaça, il y établit, si on traduit littéralement, il y mit l'homme qu'il avait façonné. » Genèse 2, verset 15, « L'Éternel prit l'homme, le plaça dans le jardin d'Éden, pour qu'il le cultive. » Et le terme ici, c'est « abad », le terme qui veut dire « servir, travailler, cultiver ». Et qu'il le garde, pour qu'il le cultive et qu'il le garde, chamar, pour qu'il le surveille, pour qu'il le protège. Il est chargé de faire ce job-là. C'est ce qui littéralement a été donné à l'homme. Ce rôle d'intendance fait partie de notre identité depuis la création. Dieu a établi l'homme pour un service, pour un travail, pour une œuvre particulière, celui de garder, de soigner, de prendre soin du jardin dans lequel il a été placé. Et vous savez quoi? C'est à nous que ça revient, encore aujourd'hui. En Jésus, nous avons été recréés à l'image, selon le plan initial, quelque part, né de nouveau en Jésus-Christ. Eh bien, c'est à nous que revient ce mandat d'intendance. Et si on regarde la signification du mot « intendant » dans le dictionnaire Larousse, littéralement, c'est une personne chargée d'administrer les affaires, le patrimoine d'une collectivité ou d'un particulier. On est les intendants des choses que Dieu a créées. On est ses représentants. Est-ce que c'est ce que ça décrit l'Église, ce que je viens de dire? On est ses représentants. Amen. Ça va? Dieu ne nous a pas placés sur la terre pour vivre au jour le jour. À aucun moment Dieu a permis qu'on vive comme ça, de cette manière-là, sans se soucier des conséquences de nos choix. Mais dans sa grâce, Dieu a déterminé. Il y avait confiance en l'homme. Dieu a eu suffisamment confiance en l'humanité qu'il a créée. Dans sa grâce, il a déterminé qu'il donnerait à l'humanité la responsabilité et l'autorité de prendre soin de sa création jusqu'au retour glorieux du Seigneur Jésus. Vous savez, j'aime pas les controverses, c'est un sujet controversé quand même, mais une petite parenthèse ici, vous avez probablement entendu parler des fameuses serres du parc Michel Chartrand à Longueuil. Vous en avez entendu parler dans les médias un petit peu? C'est ça. Moi, on est resté juste à côté du parc Michel Chartrand pendant plusieurs années à Longueuil. C'est toute une affaire, cette affaire-là. Il y a plus de serres que d'habitants à Longueuil bientôt. Hein. C'est impressionnant. Mais de toutes les sortes. Et puis je comprends, là, je ne veux pas entrer dans la polémique là-dedans, mais on est dans un milieu urbanisé, on travaille dans des bureaux. Là, la chasse, ce n'est plus trop notre affaire. Là. Mais qu'on soit indigné au point de déchirer nos chemises puis de dire, voyons donc, ça n'a pas d'allure de commencer à contrôler une population de serres qui est en train de détruire un bois, mais surtout qui n'a plus rien à manger, qui est en train de souffrir de maladies de toutes les sortes. Parce qu'il ne faut pas toucher à un animal. On a oublié, dans la société, on a oublié que l'homme a un mandat, celui de prendre soin, pour le meilleur et pour le pire, mais de prendre soin, et notre mandat biblique, c'est de prendre soin pour le meilleur de l'habitat dans lequel on est. Et ça, moi, je crois que ça rentre là-dedans. Dieu nous a donné un mandat. Si on ouvre les proverbes, du début à la fin, on va avoir une foule de conseils sur des questions de toutes les sortes, gestion matérielle, des gestions des émotions, gestion de notre caractère. Parce que tout ce qu'on fait a un impact sur ce qui nous entoure. Tout ce qu'on fait, littéralement nos choix, les décisions que je prends, celles que je ne prends pas, ce que je dis, ce que je ne fais pas, ce que je ne dis pas aussi, a des impacts. Les proverbes nous donnent des conseils de sagesse pour agir bibliquement face à la question de l'environnement aussi. Et nous, on a été placés ici pour administrer ce qui appartient à Dieu. Et ça veut dire que chacun d'entre nous, et là, je sais que c'est la partie plate du message, chacun d'entre nous, on va avoir des comptes à rendre non seulement sur nos actions, mes péchés, mes mensonges, mes erreurs, les choses que j'ai mal faites, les fois où j'ai manqué la cible, mais aussi sur ce que j'ai fait par rapport à ce mandat-là d'intendance-là. Comment est-ce que je l'ai pris au sérieux? Comment est-ce que j'ai utilisé les ressources? Moi, j'en suis convaincu, Dieu va nous mettre face à cette réalité-là. On va avoir des comptes à rendre sur la manière dont on aura joué notre rôle d'intendant face à la question de l'environnement. C'est là que tu peux dire à la personne, moi je l'ai mis dans mes notes là, parce que je découvre l'environnement. C'est spécial les sacs mauves à Québec hein, quand même, c'est des bacs bruns d'habitude. Mais tu peux dire à la personne à côté de toi, il est utile ton sac mauve, il est quand même utile, tu peux lui dire, il y a quand même une utilité. Avoir une compréhension biblique et saine sur la question de l'environnement doit automatiquement nous amener à réfléchir au point central du message de ce matin, la question de l'autorité de Jésus. L'autorité de Christ comme Seigneur dans nos vies et sur la terre. Matthieu 28, les dernières paroles de Jésus. J'aime revenir sur ce passage-là, moi c'est un des passages qui me percute le plus. Jésus transmet ses dernières recommandations à ses disciples avant de partir vers le Père. Et il les appelle à être des témoins partout où ils vont, à faire de toutes les nations des disciples. Et souvent en lisant ce passage, on s'arrête, puis on limite la vie du disciple à quelque part un mandat de choses d'église. On parle d'évangélisation de masse, à une sphère uniquement spirituelle. Mais si on regarde comment Jésus s'introduit à ses disciples, à ce moment-là, dans Matthieu 28, au verset 18, on va lire que Jésus s'approche d'eux, puis il va leur dire ceci. Matthieu 28, 18, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Jésus est Seigneur sur tout ce qui prend place ici-bas, mais aussi dans l'univers au complet. Et j'aimerais vous proposer ce matin que ce passage ne se limite pas seulement à seulement parler d'évangélisation en grand nombre ou en petit nombre, proche ou loin. Il parle aussi de notre compréhension de la seigneurie de Jésus sur nos vies. Ça veut dire quoi, Jésus est Seigneur? Moi, c'est une question que je me suis posée au début du collège biblique, sérieusement. Ça veut dire quoi, Jésus est Seigneur? On le dit souvent, Jésus est mon Seigneur. C'était facile du temps de Jésus de comprendre c'était quoi un Seigneur, parce qu'il y en avait des Seigneurs de ce temps-là. Un Seigneur de ce temps-là, avait tout pouvoir. Il avait le pouvoir sur une localité, sur un territoire, mais il avait pouvoir de vie et de mort sur tout ce qui était, tout ce qui résidait sur son territoire. Il a pouvoir, littéralement, tout lui appartient. Les bêtes, les logements, les terrains, les territoires, les personnes, tout ça, c'est sous son autorité totale et unique. Et on dit que Jésus est Seigneur de tout ce qui est sur terre et de tout ce qui est dans l'univers. Il est Seigneur. Et ça, ça veut dire il est Seigneur et Maître des terres, de tout ce qui est sur la terre, de tout ce qui nous appartient, des ressources, les fruits monétaires, la vente des ressources, le tangible comme l'intangible. Et trop souvent, on dit que Jésus est mon Seigneur sans réaliser ses paroles réellement. Ce que ça implique pour nous, l'autorité de Jésus ne se limite pas juste aux choses spirituelles et invisibles, comme parfois on peut le penser. Il n'est pas juste venu nous réconcilier nos âmes seulement avec le Père. Il est venu sur terre pour tout réconcilier avec Dieu. C'est ce que la lettre aux Colossiens nous rappelle. Il est venu restaurer ce que le péché avait détruit après la création, lors de la chute. Et la dernière étape de restauration, c'est quoi? C'est la terre. La dernière chose que Dieu va faire, va restaurer complètement. Alors, lors du retour de Christ, eh bien, il va faire de nouveaux cieux et une nouvelle terre sur laquelle nous allons être pour l'adorer pour l'éternité. Il est Seigneur de tout. C'est ce que Hudson Taylor disait. Ou Jésus est Seigneur de tout, ou il n'est pas Seigneur du tout. Célèbre missionnaire qui est allé en Chine, pionnier là-bas pour évangéliser cette population d'Asie. Et si on revient à ce passage de Matthieu 28, j'aimerais rappeler qu'il est impossible de faire des disciples sans être soi-même un disciple. C'est impossible, c'est pas possible. Mais c'est impossible d'être un disciple sans être soumis à l'autorité du Seigneur. Et ça, c'est la base même, c'est l'essence même du disciple. Je vais appeler les musiciens à me rejoindre, je conclue. Tout pouvoir a été donné à Jésus sur la terre comme dans le ciel. Et ça, ça veut dire qu'il a autorité sur tout. Il a autorité sur mon âme. Il a autorité sur mon corps. Il a autorité sur mes pensées. Ça veut dire que Jésus est concerné par ma manière de me comporter, d'une manière globale. Jésus est concerné, il se soucie de mes problèmes financiers, peut-être que c'est ce que tu vis ce matin. Il se soucie de ce que tu vis, quelle que soit la sphère, ça le concerne, ça lui appartient, c'est à lui. La maladie que tu traverses, il s'en soucie, c'est ce que la Bible nous dit. Et c'est ça que ça veut dire Jésus est Seigneur. Ça veut dire qu'il est aussi très concerné par l'anxiété que tu vis quand tu vois de la boucane dehors. Je sais que plusieurs, c'est un sujet tabou dans l'Église. On parle des enjeux climatiques, de toutes sortes de cataclysmes qui arrivent. Moi, cette nuit, à 3 heures du matin, on a eu, pas loin de chez nous, là, c'était les orages, je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mais j'ai jamais vu autant d'éclairs. Aux 2 secondes et demie, ça flashait de partout dans tous les sens. Je me dis, c'est quoi qui nous arrive dessus? Mais combien d'entre nous, on se l'avoue peut-être pas en public, mais il y a une anxiété qui est là. Tu vois de la boucane, puis comment je vais faire avec mes enfants? C'est quoi ça? Qu'est-ce qui nous arrive? Seigneur, es-tu encore en contrôle sur tout ça? Des fois, on oublie même que Jésus, Dieu est en contrôle de l'univers. On se laisse juste bercer par les informations, la crainte, l'angoisse qui est présente partout. Dieu est concerné par l'angoisse, par l'anxiété que tu vis. Il est concerné par la manière dont je prends au sérieux mon habitat. Il se soucie de la manière dont j'utilise les ressources de ce monde. Et même de la manière dont je consomme. Parce que tout est soumis à son autorité. Jésus est Seigneur de tout. Il nous a placés comme des témoins. Comme des témoins de son œuvre envers les gens qui nous entourent. Alors, parler de climat, parler de notre mandat, c'est important pour nous en tant qu'Église. Il faut qu'on adresse ces sujets-là, même si on a l'impression, ça fit un petit peu moins dans le décor d'une église le dimanche matin. On est ses intendants, on est les intendants de sa création. Et ça veut dire qu'on ne va pas seulement rendre des comptes sur nos péchés, nos actions, mais aussi sur le sérieux avec lequel on a pris, on a agi, on a fonctionné, on a accompli ce mandat d'intendance. Mais comment agir bibliquement ce matin face à la question de l'environnement en 2023? Premièrement, j'aimerais vous proposer que c'est en réalisant que ça fait partie de notre témoignage chrétien. Ça fait partie fondamentalement de notre témoignage chrétien et de notre mandat depuis la création, de faire preuve de sagesse, de faire preuve de discernement et de prendre soin de la création, de faire mon possible. Je ne peux pas régler le problème. Le ciel et la terre passeront, c'est vrai. Oui, la terre a une date limite. Mais oui, cet univers-là appartient au Seigneur et rien n'échappe à son contrôle. Nous les premiers, nous sommes sous sa main. Nous sommes sous son regard. Il veille sur nous. On a prié pour la faveur tantôt, sur nos familles. Sa faveur reste sur nous. Et il nous promet qu'il reviendra nous chercher et qu'on va pouvoir le célébrer pour l'éternité. Mais agir bibliquement, c'est commencer par réaliser que j'ai un mandat puis qu'il y a quelque chose qu'il faut que je fasse. Deuxièmement, c'est de commencer à mettre en pratique le principe biblique tellement désuet en 2023. Il y en a deux qui sont désuets solides en 2023. La modération et le contentement. C'est tellement désuet. Regardez, on court après une bébelle, puis une autre, puis une autre, puis une autre, puis une autre, puis ça ne s'arrête pas. On est béni avec la famille, là. Regardez, on vient de la Suisse, un des pays les plus chers du monde. Ça fait 12 ans qu'on est au Québec quand même, mais on s'est adapté à la vie. Pour nous, notre vie est ici, mais on n'aurait jamais pu s'imaginer devenir propriétaire d'une maison en Suisse. C'est tellement cher, c'est des emprunts sur plusieurs générations. Mais être propriétaire, c'est déjà une bénédiction. Mais être propriétaire et avoir une piscine quand il y a des canicules, c'est une triple bénédiction. Mais là, la rue où on est, ils ont toutes leurs piscines. Hey, on n'a pas d'idée là, de comment on est béni. Il y a certains endroits du monde, là, c'est interdit d'avoir une piscine. Puis même si tu pouvais, il n'y en a pas de l'eau. Tu n'en as pas d'eau pour boire. Nous, on a de l'eau pour remplir nos piscines. Et on pourrait la boire, cette eau-là. OK? On est béni. La modération. C'est correct d'avoir une piscine, c'est une bénédiction. Dieu accorde sa grâce, il n'y a pas de problème. Bénissons. Soyons bénis, puis bénissons les autres avec ça. Là. Mais principe de modération, ne pas courir après la bébelle, la dernière bébelle toujours de plus. En apprenant à trouver notre plaisir en Jésus avant tout. Et en apprenant à être reconnaissant pour ce que le Seigneur nous accorde. Suis-je reconnaissant pour ma piscine, mon spa, mes deux autos, ma maison, puis on n'a pas de sport en passant, mais mes affaires, mon bateau, mes affaires, tu sais, peu importe tout ce que tu pourras, suis-je reconnaissant pour ça? Y a-t-il une émotion qui monte dans mon cœur parfois quand je regarde ce que Dieu m'a accordé pour dire, Seigneur, merci, j'en ai par-dessus la casquette des bénédictions, merci, puis ça me suffit, j'en ai assez. J'aimerais vous proposer trois questions pour vous aider avec ça, là, en mettant en pratique la modération et le contentement. Puis ça, c'est des choses qui nous suivent depuis des années avec Lydie. Quand tu as besoin, tu sais, quand vient une petite montée de « je », ça nous arrive à tous. En ai-je vraiment besoin? Tu sais, prends juste un petit... respire un peu, là. J'en ai-tu besoin, vraiment? Ou je le veux juste? J'en ai-tu besoin? En ai-je besoin? Est-ce utile? Est-ce que c'est vraiment utile? Enfin, ma femme vient vers moi, qu'est-ce que tu veux pour Noël? Je veux rien, j'ai rien besoin. OK, mais qu'est-ce que je peux t'offrir quand même? Ben, un truc qui est utile, s'il vous plaît, pas une bébelle, là, un truc utile dont je vais me servir, pas une affaire qui traîne sur une... On a-tu des affaires qui traînent sur des tablettes dont on ne s'est plus servi depuis 2 ans? T'sais? Matériel scolaire, si t'en restes, ramène-le ici, semaine prochaine. Est-ce que c'est utile? Est-ce que ma jouissance positive de ce bien, je suis béni avec ça, a un impact négatif sur autrui ou sur l'environnement? Ce n'est pas parce que ça me bénit que c'est nécessairement bien. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que c'est utile? Est-ce que ma jouissance positive de ce bien a un impact négatif sur autrui ou sur l'environnement? 3 questions à se poser. Et dernière chose, en choisissant d'être entier, en se rappelant et en réalisant que c'est impossible de partitionner ma vie. Partitionner ma vie entre ce qui est sous l'autorité de Jésus et ce qui ne l'est pas, parce que tout, littéralement tout lui appartient. Ce qu'on fait ici ce matin, ce que tu vas faire dans ton auto, la manière dont tu vas manger, comment tu vas dépenser ton cash demain, comment tu vas rouler sur la route, tout ça, ça lui appartient. Tout ça le concerne. Les fois où tu seras en train de te frustrer au volant parce que l'autre roule à 35 km/h sur une zone 50, ça lui appartient. Ça le concerne. Ce matin, j'aimerais conclure avec un appel aussi particulier pour quelqu'un qui subit quelque part, qui vit de l'angoisse. C'est un tabou un peu dans l'Église, c'est vrai. Tu as de l'angoisse, tu vois la boucane, puis ça spinne dans ta tête. Colossiens 1, verset 20, l'apôtre Paul va, après avoir rappelé qu'il était venu pour tout restaurer, va dire ceci. Qu'à Jésus, tout appartient. Tout a été fait pour lui. Pour lui et par lui. Ce qui est sur la terre, ce qui est dans le ciel. Mais Dieu a voulu, par Christ, au verset 20, tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui par son sang versé sur la croix. Je veux t'inviter ce matin à placer ou peut-être replacer. C'est le wake-up call de Dieu ce matin. Place ou replace ton attention, ton cœur en Jésus ce matin. Viens donner ta confiance à Jésus. Son autorité s'étend sur tout l'univers. Son autorité du plus petit atome au fin fond de l'univers jusqu'à ce que tu ressens tes angoisses au plus profond de toi. Tout ça le concerne. Il est concerné par tes pensées. Il est concerné par tes actions. il est concerné par ces choses qui te font peur, par les moindres détails de ta vie. Et ce que tu ressens n'échappe pas à son regard. Et j'aimerais vous rappeler ceci ce matin. Si c'est ton cas, tu vis de l'angoisse, puis des fois c'est difficile à gérer. Regarde à la croix. Parce que la croix est quelque part le signe, l'assurance que Dieu nous a donnée, qu'il ne nous abandonnerait jamais. Que ce qu'il a fait une bonne fois pour toutes sur cette croix, tout a été accompli. Et son retour prochain est certain et sérieux. C'est une promesse sur laquelle tu peux t'appuyer. Cette croix, généralement, elle est vide parce que Jésus est ressuscité puis il a laissé un tombeau vide. Mais ici, Jésus est vivant devant la croix, c'est correct. Mais cette croix qui a été laissée vide est le symbole quelque part sur lequel qui nous rappelle quelle est notre assurance et quelle est notre espérance. Et ce matin, j'aimerais t'inviter à regarder à cette croix en te souvenant que Jésus a tout accompli pour te pardonner, te réconcilier avec Dieu, mais que tout ce que tu vis et ce que tes voisins vivent aussi, ben, il est venu sur cette terre, tout accomplir sur cette croix pour que ça puisse être racheté et qu'il y ait un espoir. Avec parler du climat un dimanche matin, c'est important. Amen. Seigneur, je te prie pour chacun d'entre nous. Pose ta main sur ton peuple, Seigneur, sur ton Église, que tu puisses nous permettre d'être de bons intendants. Pardonne-nous toutes les fois où on a surfé un petit peu sur la vague de la vie, sans trop considérer les choses selon ta perspective. Donne-nous, Seigneur, de nous contenter de ce que tu nous accordes, des bénédictions, mais d'en user avec modération, modestie. Seigneur, que tu puisses nous apprendre à agir de manière sage, biblique, et que par ces comportements-là, Seigneur, nous puissions briller, Seigneur, dans la société. Nous puissions être des témoignages vivants de qui tu es. Parce que la terre t'appartient, ses ressources aussi. Et Seigneur, tu nous as placés pour en prendre soin, alors que nous puissions donner le ton. Seigneur, fais de ton peuple un exemple dans le domaine. Pardonne-nous d'être le dernier des wagons sur ce train-là, bien souvent. Et permets-nous de donner le ton, sans faire peur. Parce que Seigneur, nous pouvons donner le ton en rappelant que l'humanité est entre tes mains. L'univers est entre tes mains. Et Seigneur, tu es le chemin, la vie, Seigneur. Alors nous nous tournons vers toi et nous regardons à toi. Et Seigneur, je te prie particulièrement pour quelqu'un ce matin qui vit une certaine angoisse, une crainte qui est là. Permets-lui de s'appuyer sur toi. De se rappeler, Seigneur, que cette croix est le fondement solide sur lequel on peut s'appuyer, encore aujourd'hui, qui est le symbole et qui est notre rappel, Seigneur, que tout est accompli et que tout ce qui est encore à venir s'en vient, mais que c'est toi qui es en contrôle. Je suis avec vous jusqu'au dernier jour. C'est ce que tu as dit à tes disciples. Alors tu es encore avec nous. Alors Seigneur, que cette personne ou ces personnes qui ont besoin de trouver la paix en toi puissent le faire ce matin, dans le nom de Jésus. Amen. Et amen. On peut se lever ensemble, on va chanter un dernier chant avant de se laisser.